Salut à tout le peuple vert! La mi-temps verte n'a pas eu d'offre au Mercato. Tous les lundis à 20h, je vous retrouve pour débriefer toute l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Ligue 1, Europa League, Coupe Nationale, Mercato, polémique, il y en aura pour tous les goûts. La mi-temps verte, c'est le seul talk show 100% ASS qui exclut totalement la langue de bois. Et c'est tous les lundis à 20h sur RVR.
Johnny Rep enfile son maillot vert.
Bonsoir à tout le peuple vert, l'AS Saint-Etienne est resté dans les starting blocks ce week-end, toujours décevant en championnat. Les Verts n'ont pu faire mieux que match nul samedi face aux Girondins de Bordeaux, un but partout. Le capitaine bordelais Henri Cévé a montré la voie aux siens en égalisant sur coup franc dans le temps additionnel. Il s'agit du troisième but encaissé par les Stéphanois dans cet exercice en Ligue 1 cette saison. Est-ce grave, docteur? Il y a de quoi s'interroger, même si certains joueurs stéphanois comme Jean-Christophe Baébec, la nouvelle recrue, ont été convaincants. Est-ce néanmoins la seule bonne nouvelle pour l'ASS? Élément de réponse dans la seconde partie du débrief. Nous évoquerons également le mercato. Les dirigeants sont toujours à la recherche de joueurs pour compléter le secteur offensif. Le Niçois Valentin Esric serait dans les petits papiers de Christophe Galtier. Est-ce une bonne idée? Et Molo, est-ce un gâchis? L'ailier gauche a annoncé son départ pour la Russie. Nous y reviendrons en milieu d'émission juste après l'Expresso. Cap ensuite sur la semaine dense qui attend le club stéphanois. Dimanche, les Verts se déplacent à Lorient au stade du Moustoir. Les Merlions ont arraché le nul à Bastia dimanche, un but partout sans vraiment convaincre. En revanche, Majid Waris a bien failli se montrer décisif. L'ancien de VA sera-t-il l'arme fatale des Merlus cette saison? En tout cas, les Verts auront raison de se méfier, tout comme il faudra rester prudent face aux 1000 Samy Auray jeudi lors des barrages allés de l'Europa League. Cela dit, les Moldaves restent des adversaires modestes. Est-ce l'occasion rêvée de renouer avec la confiance? Élément de réponse en fin d'émission. Avec moi ce soir pour décrypter cette actualité très dense, le directeur technique du club de basket de Vrigne-aux-Bois dans les Ardennes, Thibaut Tissier. Bonsoir Thibaut.
Bonsoir.
Nous reviendrons sur votre parcours dans l'Expresso en deuxième partie d'émission, mais tout de suite, on repart du côté de Geoffroy Guichard.
La radio est pour ensemble.
L'AS Saint-Etienne a encore failli ce week-end alors qu'il menait au score grâce à un but de Romain Amouma très bien amené. Les hommes de Christophe Galtier se sont fait rejoindre dans le temps additionnel par les Girondins de Bordeaux, un but partout. Henri Cévé a encore une fois marqué sur coup franc direct. Il s'agit du troisième coup franc direct encaissé en deux matchs par l'AS Saint-Etienne. Est-ce que ce n'est pas alarmant? Parce qu'il y a eu quand même deux buts sur coup franc direct encaissés à Toulouse, au Stadium. Et là, ça fait encore un but sur coup franc, quoi.
Ouais, je crois que c'est là où il faut que ça. Il y a un travail à l'entraînement. C'est clair que je crois que ça fait trois buts depuis le début de championnat où il y a un but sur un coup de pied arrêté. Donc c'est là où il faudra se reprendre parce que c'est des points perdus pour eux.
Et sur le coup franc en plus, l'action est un peu bizarre parce que Thomas Touré et Henri Cévé sont au ballon. Aucun des deux n'est gaucher, mais c'est Thomas Touré qui est dans la position du gaucher, donc il y a déjà une fausse piste à ce niveau-là. Les deux s'élancent, deuxième fausse piste, et c'est finalement l'homme aux 118 matchs de Ligue 1 qui frappe, Henri Cévé. Il trouve la faille grâce à une erreur de Bayal Sal qui sort du mur au lieu de rester en place. Alors selon Romain Amouma qui a parlé en conférence de presse et en zone mixte à l'équipe, c'était prévu. C'est une manière de défendre Mustapha Bayal Sal aveuglément. Quand on voit l'action, on voit Mustapha Bayal Sal qui sort du mur. Pour un joueur expérimenté comme Bayal Sal, ça fait bizarre.
Je crois que dans une équipe, déjà sur deux journées de championnat, il faut rester soudé sur des ensembles. Si on commence à descendre les joueurs de son équipe, c'est compliqué, donc après, je pense que sa réponse, elle est pas illogique. Maintenant, si c'est fait exprès, moi, je suis pas à la place du coach des Verts, bien sûr. Mais voilà, je pense qu'ils ont aucun intérêt à se disperser sur ce genre de questions devant les médias.
Et c'est pas un peu une faute professionnelle quand on est un défenseur expérimenté de 28 ans, avec 10 années au club, quand on connaît bien la Ligue 1, de sortir d'un mur comme ça, et puis d'ouvrir la porte, quoi.
Une faute professionnelle, je sais pas. Après, c'est sûr que c'est pas. Aujourd'hui, c'est ce qui a coûté le but, donc forcément, on va dire que c'est une erreur. Après, voilà, est-ce que c'était un choix? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ben, là, on peut pas trop savoir plus que ça.
Dans cette partie, il y a une stat assez édifiante. Les Girondins de Bordeaux ont frappé 18 fois au but et auraient pu inscrire beaucoup plus de buts sans un certain manque de lucidité. Malgré tout, on a l'impression que les automatismes ont fait la différence sur ce match. Christophe Galtier, d'ailleurs, en semblait convaincu en conférence de presse que les Girondins auraient un rôle à jouer cette saison. Écoutez l'entraîneur stéphanois.
Bordeaux nous a posé d'énormes problèmes dans ce que j'appelle l'intensité d'un match, dans la valeur athlétique d'une équipe et dans la maîtrise technique. Donc, Bordeaux me paraît bien armé pour exister sur un plan européen et exister sur un championnat. Nous, on est encore loin. Il nous manque beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Mais il nous manque évidemment de la maîtrise technique, il nous manque évidemment des automatismes. Il y avait très peu de nouveaux joueurs du côté bordelais, ils se connaissent bien, ils ont eu le temps de travailler ensemble. Nous, il y a quand même beaucoup de choses nouvelles et peu de séances d'entraînement entre les uns et les autres. Il y en aura encore peu avant d'enchaîner les matchs. C'est comme ça. Mousse n'est pas prévu d'être là, mais Bordeaux, sur cette dernière action, bien évidemment que Bordeaux a mis beaucoup de monde dans le mur pour faire écran, pour gêner Stéphane sur le départ de la balle. Il aurait été préférable, mais je ne vais pas l'incriminer, c'est comme ça, il aurait été préférable que Mousse ne sorte pas de ce mur-là. Mais on aurait pu prendre le but avant, quand même.
Voilà, Christophe Galtier sur RVR qui parle de ce problème de réalisme offensif, mais aussi des Girondins de Bordeaux qui estiment que les Girondins de Bordeaux ont un rôle à jouer. Est-ce que finalement, ces histoires d'automatisme dans une équipe, c'est vital, même pour un club qui ne recrute pas?
Oui, c'est sûr. Après, un club qui ne recrute pas, c'est un gage de stabilité. C'est une équipe qui est déjà en place, qui n'a pas besoin de grand chose au niveau de son collectif. Je crois que l'année dernière, ils avaient débuté très fort le championnat. C'est aussi ce qui fait la différence sur un début de championnat. Les Verts, ils étaient avec une recrue en attaque qui vient d'arriver. Mm. Il y a des automatismes à créer. C'est pas évident. C'est certainement moins évident qu'un groupe qui n'a quasiment pas changé.
Parce qu'on rappelle que Saint-Etienne s'active cette saison sur le marché des transferts, mais Bordeaux n'a qu'une recrue cette saison dans son effectif. C'est un jeune latéral serbe de 21 ans. Quelque part, on peut envoyer un petit clin d'œil à Jean-Louis Triot. Excusez-nous, Jean-Louis Triot, si vous nous écoutez sur rvrradio.fr depuis la Gironde, mais...
C'est le plus grand boss de toute la ville, Picsou, Picsou.
Il est très très peu enclin à mettre de l'argent sur la table pour recruter, pour renforcer son équipe, Jean-Louis Triot. Mais finalement, sur la durée, est-ce que ça peut s'avérer un avantage?
De mettre l'argent sur la table, c'est déjà pas évident aujourd'hui. Je pense qu'avec la crise économique, même les clubs sportifs ont du mal, tous les clubs sportifs, que ce soit en basket ou en football. Maintenant, est-ce que c'est un avantage? Je ne sais pas. Ça, je pense que c'est sur la durée, à mon avis. En tout cas sur la première partie de saison, ça sera, je pense, un avantage.
Sur son blog, le chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès, a stigmatisé l'association de la charnière centrale Bayal-Pogba. On rappelle que Loïc Perrin est blessé. Selon Pierre Ménès, il est impossible de jouer au ballon avec Bayal et Pogba dans l'axe. N'est-ce pas sévère comme jugement?
Je crois que Pierre Ménès, il est toujours un petit peu sévère, un petit peu dans la critique pour faire parler. Après, je pense que Pogba, c'est aussi un jeune joueur, donc il manque un peu d'expérience, même si ça fait un petit moment qu'il est chez les Verts maintenant. Il faudra voir sur plusieurs matchs, aujourd'hui c'est sûrement trop tôt pour le dire.
Et l'absence de Loïc Perrin, on a vu quand même sur certaines actions bordelaises, elle fait mal quand même à cette défense.
Loïc Perrin, je crois que c'est quand même un pilier de des Verts, ça fait des années qu'il est là-bas. À contrario de Pogba, c'est l'expérience en plus. C'est sûr que sur des détails, ça fait la différence aujourd'hui. Donc voilà.
Parce qu'il y a cette action un petit peu confuse en seconde période où on voit Clément Chantôme qui est tout près d'ouvrir le score, le milieu de terrain des Girondins de Bordeaux qui est formé au Paris Saint-Germain. Et finalement, il est contré non pas par Stéphane Ruffier comme certains commentateurs l'ont dit, mais par un défenseur de sa propre équipe, Palois, qui passait par là et qui a contré le ballon avec sa jambe. Donc finalement, bon, pour le coup, Perrin a été bien suppléé, même si c'est pas forcément par la personne qui l'attendait en regardant le match. Mais on peut quand même se poser des questions. Cette équipe n'est pas sereine sans son patron. Loïc Perrin, c'est le patron.
Ah bah oui, je pense que depuis ça fait des années qu'il est à Saint-Etienne, je crois que forcément c'est sur lui que les choses reposent, surtout derrière. Maintenant, je crois que quand un cadre n'est plus là, il faut savoir passer la main et puis et faire en sorte de régler les détails, les associations entre les joueurs.
Un but refusé à Nolan Roux en début de match, un pénalty évident à refusé à Jean-Christophe Baébec, on y reviendra. La série noire peut-elle durer pour l'AS Saint-Etienne? Parce que là, en quelques matchs, il y a eu l'Europa League aussi il y a deux semaines. Là, en championnat contre Bordeaux, ça fait un peu tâche là, pour le début de la saison.
Ouais, après, est-ce qu'on a toujours commencé la saison sur les chapeaux de roue? Je crois pas. Forcément, la Coupe d'Europe, en début de saison, ça nous a pas toujours réussi. Maintenant, c'est deux matchs. La semaine prochaine, ça joue donc à Lorient. Ça sera une autre paire de manches. Donc, je pense qu'il y a moyen de rattraper le coup et de se relancer ou de lancer la machine, tout simplement.
Il est 20h12 sur RVR. Jean-Christophe Baébec, la nouvelle recrue de l'AS Saint-Etienne, formée au Paris Saint-Germain, lui aussi, comme Clément Chantôme, convoqué dès sa première semaine en vert pour la réception des Girondins de Bordeaux. Le champion du monde U20 2013 a effectué ses premiers pas devant le public de Geoffroy Guichard samedi après-midi. L'ancien Parisien s'est montré à son avantage au point de figurer dans l'équipe type de la deuxième journée de Ligue 1 dans l'équipe. Il est auréolé d'un encourageant 6 sur 10. Ses stats sont là, 40 ballons touchés, 6 gagnés, 0 tir cadré sur 3, mais au moins il a eu le mérite de tenter. Il est déjà dans le coup, Jean-Christophe Baébec, mine de rien. C'est la seule bonne nouvelle du week-end pour l'ASS.
Bon, seule bonne nouvelle, je ne sais pas. Après, je pense que c'est un joueur qui vient à Saint-Etienne pour exploser, pour se lancer dans un club, on va dire, professionnel. Paris, c'était plus dans un esprit de pour se former. Là, c'est plus pour chercher à lancer sa carrière. Il a tout intérêt à se montrer décisif cette année.
On l'a vu frapper un coup franc au premier poteau assez vicieux d'ailleurs en début de match. Il a terminé dans le petit filet, à l'instar de Max-Alain Gradel. Jean-Christophe Baébec peut-il prendre le jeu stéphanois à son compte malgré ses 22 printemps?
Ça, je pense que ça aussi, c'est trop tôt pour le dire. C'est pas Max-Alain Gradel, il part après avoir imposé un style à Saint-Etienne. Aujourd'hui, Baébec, il a tout à prouver. Ça faudra voir sur les prochains matchs quel rôle il va lui donner.
À la 39e minute de jeu, Jean-Christophe Baébec, qui on le rappelle a remporté le championnat du monde des moins de 20 ans en 2013 avec notamment Kurt Zouma, aurait dû obtenir un pénalty pour une faute évidente d'un défenseur bordelais. Mais l'arbitre Nicolas Rainville a jugé qu'il y avait une simulation. Résultat, Baébec a écopé d'un avertissement. Une sanction à laquelle l'ancien Parisien goûte peu. Écoutez.
Je sais que je peux mieux faire et encore plus apporter à cette équipe. Mais voilà, je me sentais en jambes, j'étais bien. C'est vrai que je manquais un peu de rythme à la fin du match, c'est pour ça que j'ai demandé à sortir. Mais voilà, je vais essayer de répéter ces matchs-là et avec pourquoi pas un but et une passe derrière la clé aussi. Ouais, je pense qu'il y a faute, j'ai revu les images, l'arbitre aussi, mais bon, au retour de la mi-temps, il me dit il semble qu'il joue le duel de l'épaule alors que moi je vois très bien qu'il me pousse du bras quoi. Et ce qui est un peu plus frustrant, c'est le carton jaune quoi.
Voilà, Jean-Christophe Baébec qui s'est exprimé sur la chaîne officielle de l'ASS après la rencontre, frustré d'avoir écopé de ce carton jaune, en plus de l'erreur d'arbitrage parce qu'il se fait vraiment bousculer dans la surface de réparation. Nicolas Rainville, faut le rappeler, il a été observé lors de cette rencontre. Alors, bon, Jean-Christophe Baébec, il a subi une petite injustice, est-ce que ça peut le motiver pour les matchs suivants?
Oui, je pense que c'est... Ça veut dire qu'il a pesé sur le jeu. Maintenant, c'est à lui de chercher à produire encore plus et de toute façon, ces petites fautes-là, c'est, un jour, c'est payant. Ça se transforme en pénalty à coup sûr. Donc, forcément, ça amène de l'impact.
Jean-Christophe Baebek a été l'un des seuls joueurs à recevoir les encouragements de Christophe Galtier samedi. Il a beaucoup percuté et a été juste techniquement, a déclaré l'entraîneur originaire de Marseille en conférence de presse. C'est surtout individuellement en fait qu'il s'est fait remarquer. Baebek, doit-il progresser d'un point de vue collectif?
C'est forcément, je crois que c'était la seule chose qui voulait dans... Oui, il pouvait apporter, c'était individuellement. Ça fait pas longtemps qu'il est là. Maintenant, collectivement, c'est forcément qu'il doit se mettre dans un collectif pour améliorer l'ensemble de l'équipe et puis produire plus. C'est la suite logique d'une recrue nouvelle.
Et peut-il apporter cette profondeur? On parlait de Max-Alain Gradel tout à l'heure, mais mine de rien, c'est un joueur qui officie la plupart du temps sur les côtés, qui a une bonne pointe de vitesse, une certaine explosivité. Est-ce qu'il peut apporter cette profondeur qui manque tant à l'ASS depuis le départ de Pierre-Emerick Aubameyang vers le Borussia Dortmund?
T'avoue que je n'ai aucune idée par rapport à ça. C'est vrai que le profil du joueur, après, je ne sais pas ce qu'il peut apporter dans le jeu de Saint-Etienne. Comment Gatti veut qu'il soit utilisé, ça, c'est aussi important. Est-ce que le recrutement derrière va être fait pour que ce joueur soit plus utilisé dans ce sens-là? Pas sûr, après à voir. Ça, c'est des choix qui vont en découler pour plus tard. Hein.
A priori, il devrait jouer plutôt sur un côté, puisque Nolan Roux et Neal Mopé sont arrivés pour occuper l'axe, pour pallier les manques laissés par Mevlut Erding, qui est parti à Hanovre notamment. Même si Jean-Christophe Baebek peut aussi occuper l'axe, mais là où il s'est révélé, c'est plutôt sur un côté. Et il a une bonne pointe de vitesse. Donc finalement, c'est un joueur qu'on attend plus dans un rôle de dynamiteur, en fait.
Oui, je crois que Nolan Roux a aussi besoin de s'exprimer cette année à Saint-Étienne. C'est une bonne opportunité aussi. Donc je pense que l'association peut être intéressante comme cela.
Je parlais du cas Nicolas Rainville tout à l'heure parce qu'il a commis une erreur quand même assez manifeste sur cette action du pénalty. Il était observé, je le répète, lors de ce match en vue de l'Euro 2016. Alors cette erreur d'appréciation n'est-elle pas problématique à un an de ce grand rendez-vous qui attend la France du foot?
Non, je pense pas, parce que en général, ces arbitres-là, ils sont supervisés pas une seule fois, ils sont supervisés plusieurs fois dans la saison. Donc, je crois que c'est pas une erreur qui va faire pencher la décision finale. Pour lui, à mon avis, il faut qu'il se juge sur plusieurs matchs de la saison. C'est ce qui va se passer de toute façon.
Ça fait basculer une rencontre quand même.
Ouais, après, je pense que chaque arbitre, chaque année, il y a des rencontres qui basculent. Même plusieurs fois dans l'année, donc voilà, tout le monde a le droit à l'erreur, surtout un arbitre, il n'y a pas de vidéo, donc voilà.
Et qui dit Euro 2016 dit forcément équipe de France. Baebek peut-il aujourd'hui bousculer la hiérarchie en équipe de France? On sait que Didier Deschamps n'a toujours pas trouvé vraiment son plan de jeu, son plan d'attaque.
Je crois que je pense qu'il faudra qu'il fasse une très très grosse saison. Après, je pense qu'on l'attend pas à ce niveau-là sur la fin d'année. Après, l'équipe de France, il y a quand même de sacrés joueurs offensifs. Maintenant, ça dépendra de la saison qui va produire à Saint-Étienne et puis le classement final de l'équipe. Hein. La radio est pour
ensemble. L'Expresso de la mi-temps verte sur RVR.
Il est 20h20 sur RVR, c'est l'Expresso, votre chronique phare dans la mi-temps verte, avec mon invité ce soir, Thibaut Tissier, coordinateur technique de Vrigne-aux-Bois, club de basket dans les Ardennes. Thibaut Tissier, depuis quand exercez-vous la fonction d'entraîneur?
Depuis 2008 maintenant, donc ça fait un petit bout de temps. J'ai commencé à Charlieu en 2008, voilà, par un contrat au club de Charlieu.
Un contrat au club?
Ouais, tout à fait. J'étais en fait entraîneur au club et je faisais passer une formation sur Lyon et Saint-Étienne d'entraîneur. En fait, on est formé surtout au métier de non seulement d'entraîneur, mais aussi de gérer une association sportive.
Vous venez de rejoindre le club de Vrigne-les-Bois dans les Ardennes. Vous êtes coordinateur technique du club. Alors, quel est votre projet pour ce club, pour cette formation, dont l'équipe 1 senior que vous venez de prendre en charge également vient d'atteindre la Nationale 3?
Alors, tout d'abord, c'est un travail sur le club en lui-même. C'est-à-dire que j'arrive avec beaucoup de travail de redynamique, sur le club. C'est-à-dire que il y a un besoin de former des jeunes en premier. Donc, il y a toute une réorganisation sur les entraînements, sur la formation du joueur, sur la formation des entraîneurs. Donc ça, c'est le plus gros travail, on va dire. C'est essayer de sortir des jeunes, parce qu'on n'est pas très loin de Charleville, nous, Charleville-Mézières, qui est un gros club, un club pro B. Le but, c'est un petit peu de sortir, nous, des joueurs qui puissent aller sur le meilleur niveau national. Voilà. On a l'équipe nationale 3 qui est l'équipe Fagnon, c'est la vitrine du club, mais vraiment le plus gros boulot qu'on a, c'est sur ces équipes de jeunes.
Justement, avec ces jeunes, c'est quoi le projet exactement? Vous voulez les mener où?
Déjà, on a des infrastructures qui sont de très bonne qualité, donc le but est de les exploiter au mieux, donc pas mal d'entraînements sur des catégories très jeunes, de U11 par exemple. C'est là où en général ces jeunes sur cet âge-là qu'on apprend le plus pour une année. Donc on va essayer d'optimiser au mieux les entraînements. On a une école de basket qui est labellisée par la Fédération française, donc ça c'est quelque chose d'important. C'est à nous aussi de développer encore ça pour l'augmenter. On a à peu près 80 jeunes qui participent à l'école de basket, donc c'est quand même important. Après, on a des équipes de niveau département et de niveau régional. Donc le but, c'est d'amener ces équipes au meilleur niveau régional. Voilà, c'est l'objectif.
Pour l'équipe senior, donc vous êtes promu en National 3. Vous allez prendre les commandes de l'équipe senior cette saison. Quels sont vos objectifs en tant que promu? Est-ce que c'est le maintien ou est-ce que vous visez quand même un petit peu plus large?
Alors nous, c'est le maintien. Parce qu'on a eu, c'est vrai qu'on a eu, on est promu, donc on a cette connaissance, peu de connaissances à ce niveau-là, notamment sur le recrutement. On commence le recrutement assez tard, il nous manque encore quelques joueurs à recruter. Et c'est vrai que c'est une découverte du niveau pour tout le monde, les dirigeants, moi-même et puis beaucoup de joueurs qui sont au club, tous sont moins de 25 ans quasiment. On a un seul joueur à 35 ans. Après, on a recruté un bon joueur, Alexandre Hamet, qui devrait nous apporter de l'expérience et un niveau de jeu qui va nous permettre d'aller sûrement titiller certaines équipes de la poule. Donc l'objectif, c'était clairement le maintien.
Thibaut, si vous aimez cumuler les projets, les casquettes, ça vous suit depuis que vous entraînez d'ailleurs. Vous avez commencé en 2008 à Charlieu avant de filer à Chalon-sur-Saône en Bourgogne, terre basket d'ailleurs. Vous entraîniez les cadettes région, vous étiez aussi assistant de l'équipe cadette France. Puis vous avez obtenu un CDI au Besançon Racing Club en 2011, vous êtes resté 4 ans dans le Doubs, vous êtes passé des filles au senior masculin. En termes de gestion, ce n'était pas trop dur à gérer d'une saison à l'autre, quand vous êtes arrivé à Besançon, de passer d'une gestion d'une équipe féminine, qui plus est jeune, à une équipe senior masculine?
Pour moi, non. Je crois qu'au début, quand on est jeune coach, on essaye de chercher un petit peu sur quelle catégorie on va être le plus performant et sur quelle on va dire si on est plus performant sur les filles ou sur les garçons. Moi, c'est plus les garçons. C'est vrai que les filles, il y a beaucoup plus de pédagogie à avoir, c'est plus d'extra basket, on va dire, à développer et à faire attention plutôt que sur le basket, sur le terrain, pardon. On va dire que les garçons, c'est du naturellement, c'est un point que je préfère et j'aime développer le basket masculin plutôt.
Et pourquoi cette préférence, justement?
Les garçons, il y a besoin d'être plus direct, déjà.
Ça correspond à votre tempérament?
Ouais, on parle d'homme à homme, c'est plus... Il n'y a pas de barrière à se mettre, on passe pas par 50 chemins pour dire une chose. Et après, il y a une dynamique physique que j'aime bien avoir dans ce sport. Et les filles, c'est plus un aspect tactique, technique. Le physique, c'est un petit peu moins développé. Donc c'est vrai que moi, je préfère avoir des hommes face à moi. C'est plus simple à gérer, je dirais.
Et vous gardez de bons souvenirs de Besançon quand même, j'imagine?
Ouais, tout à fait. Là, je viens de... Bon, je pars sur un assistant. J'étais assistant de l'équipe M3, comme vous l'avez dit. Mmh. Et en fait, on monte en National 2. On perd 3 matchs dans l'année. Donc forcément, c'est une belle saison avec des joueurs peut-être les deux. Après, moi, j'avais besoin de plus de responsabilités. Et j'ai eu cette proposition à Vrigne-Bois. Donc voilà, pour moi, c'était le deal parfait pour continuer à progresser dans ma carrière.
Vous avez lancé avec un de vos collègues de Besançon, Alan Sieli, on lui passe le bonjour au passage, une application de statistiques, Stats Pro Basket. À quoi sert-elle exactement?
À la base, c'était plus, on va dire, un délire. parce qu'on, c'est un peu sur ça qu'on se rencontre avec Alan. À la base, on va voir un match de filles, justement. Et puis, on parle de statistiques. Et je trouve que lui développe, ça avait développé les applications de ce genre. Moi, j'avais beaucoup d'idées par rapport à ça. Et l'association des deux a fait qu'on a pu développer une application ludique et pratique pour le tout public, on va dire. C'est-à-dire que quelqu'un qui va venir voir un match de son enfant ou de sa femme ou de son homme peut très bien faire les stats sur l'application.
Et est-elle destinée à une catégorie d'entraîneurs en particulier ou tous les passionnés de basket peuvent s'en servir?
Tous les passionnés, parce que nous, par exemple, cette année, je sais qu'on avait quelqu'un qui suivait une équipe de Ligue féminine et puis faisait les stats du centre de formation et faisait les stats. Moi, j'ai mon assistant l'année prochaine qui va faire les stats de l'équipe. Donc, je pense que c'est adapté à tous les niveaux. Il y a une prise de stats en fait qui permet de prendre la stat des joueurs de toute une équipe, donc au choix, et une stat qui permet la prise de stats de l'équipe complète sans prendre les joueurs. C'est plus facile à prendre en compte. En général, les statisticiens ils sont par deux sur les matchs pro. Donc, l'idée c'est d'être tout seul et de voir le match en même temps.
Où est-ce qu'on peut la trouver? Elle est payante, je crois.
Alors, il y a une version qui est gratuite sur le Play Store. La version gratuite, elle permet d'avoir quasiment toutes les infos, toutes les prises de stats. Le seul truc, c'est qu'elle peut pas exporter les statistiques par mail. Après, on peut pas les imprimer. Alors, c'est pour ça que l'appli payante est à 2,50 €. C'est pas très très cher. On est plus sur du permettre de faire connaître l'application. Et un moyen après d'imprimer en live, ça c'est intéressant.
On parle beaucoup de votre job d'entraîneur. Vous avez néanmoins une aventure de joueur au sein des Minimes France de la chorale de Roanne sous les ordres d'un certain Jean-Michel Giroudon. Racontez-nous comment ça s'est passé.
Ça a été une année très difficile, on va dire. Moi, je sortais d'un niveau départemental, là. J'avais jamais joué plus haut que le département, on va dire. Et puis, puisque j'étais grand, j'ai été repéré par Jean-Denis en ayant fait des tests à la chorale. J'aimais bien le basket sans plus. Et c'était une année très compliquée parce que forcément j'avais pas forcément le niveau. Jean-Denis, c'est un coach qui est très dur. Et malgré tout, en fait, c'est un coach qui m'a marqué. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me... On va dire que je suis un peu dans le même style. J'aime être dur, mais passionné. Donc c'est quelque chose qui fonctionne avec les jeunes. Et moi, ça me faisait fonctionner quand j'étais à la chorale de Roanne.
Pourquoi vous preniez autant de plaisir à vous faire remonter les bretelles? Parce que vous me l'aviez dit, je m'en souviens, il y a quelques mois de ça, dans un entretien pour le Progrès.
Oui, c'est vrai que moi j'aime bien me faire remonter les bretelles parce que c'est ce qui me permettait d'avancer. Je savais que j'avais des grosses lacunes, mais quand on touche du doigt, on voit des pros à côté de nous, on voit des joueurs qui sont en équipe de France jeune autour de nous, ça c'est des choses qui marquent. Et moi je conseille à tous les jeunes, s'ils ont la possibilité de s'entraîner avec des championnats de France ou de jouer en championnat de France, et c'est un plaisir et c'est une aventure extraordinaire. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire passer dans mes joueurs de championnat de France en minime quand je les coachais.
Et vous préférez jouer ou entraîner?
Aujourd'hui, c'est très facile à répondre. Bien sûr, je préfère coacher. Le coaching, c'est... On va dire qu'on est... On est partout. On doit gérer des hommes, on doit gérer ce qui se passe chez l'adversaire, on doit préparer des matchs, on doit préparer des entraînements. Tout découle de nous. Après, les joueurs, ils font le boulot sur le terrain, mais on doit lancer de la mécanique. Et ça, c'est ce qui me plaît le plus.
Va y avoir l'Euro de basket dans pas très longtemps sur le sol français. Quel regard portez-vous sur la médiatisation du basket par rapport à des sports populaires comme le football, par exemple? Il y a quand même un écart de médiatisation, non?
Ouais, il y a un écart, c'est sûr, ça a toujours été. Aujourd'hui, je pense que la FF travaille de toute façon pour développer l'image du basket. Par exemple, là, on a a appris il y a peut-être un mois que les chaînes, la chaîne de l'équipe 21 sur la TNT allait produire des matchs de basket. Donc ça, c'est intéressant pour le public français qui veut regarder des matchs de basket. Ça nous aidait par rapport à la médiatisation. Et puis le fait de jouer un euro chez nous, ça c'est clair que c'est ce qui va nous apporter également des licenciés dans les clubs.
Et vous croyez une épopée de la bande à Tony Parker ?
Ouais, je crois que c'est ils sont déjà depuis quelques années maintenant sur le bon rail. Il y a toujours des titres qui viennent cette année. En regardant les autres effectifs et puis celui de l'équipe de France, je crois qu'on a nous un effectif qu'on avait déjà. Enfin, je pense que Vincent Collet a déjà réfléchi dès la saison dernière. Dans les joueurs qu'il a, il a gardé tous ceux qu'il pensait déjà avoir, je pense. Et à contrario, les équipes adverses sont vachement diminuées, je trouve, comme l'Espagne, qui va perdre pas mal de joueurs cette année. Donc je pense qu'il y en a vraiment nos chances, des chances de médailles, voire plus, de titres.
Un coup de cœur ou un coup de gueule sur l'actu des Verts que vous suivez peut-être un petit peu ?
Moi, je suis de loin maintenant les Verts. C'est vrai que le football, c'est pas ma tasse de thé. Je suis de très loin maintenant. Les Verts, c'est vrai que quand on est dans la région rouennaise et stéphanoise, donc on est toujours attaché à ces couleurs. C'est vrai que le début de saison n'est pas formidable. Après, depuis plusieurs saisons maintenant, Galtier fait les choses très bien à Saint-Etienne. Je pense qu'il faut lui faire confiance et de toute façon, on fera forcément une belle saison.
Il est 20h34 sur RVR.
RVR, la radio qui vous...
On va parler du mercato, puisque c'est un petit peu ce qui nous tient en ce moment, et ce jusqu'au début septembre. La rupture semble consommée entre l'AS Saint-Etienne et Johan Mollo, l'ailier gauche des Verts. Selon l'équipe, le milieu offensif devrait rejoindre le club russe du Kirilla Sovetov Samara. Promu dans l'élite du football russe, c'est un énième gâchis, Thibaut Tissier.
Ouais, déjà, je pourrais pas donner le nom de son club, là. Mais c'est clair que il a pas prouvé qu'il pouvait faire quelque chose à Saint-Etienne dans le laps de temps qu'il a été là. C'est dommage.
Je pense que bientôt je porterai un autre maillot. Je vais juste essayer de chercher un peu de lumière pour égayer ma vie. Pourquoi la Russie ? Je n'ai eu que cette offre me concernant. Je vais découvrir avec joie un nouveau pays, un nouveau club qui a besoin de moi. C'est juste ce que j'attendais, a écrit l'ancien monégasque sur Instagram dimanche à 2h du matin. Il a vendu la mèche prenant de court ses dirigeants. Le conseiller sportif du président Roland Romeyer, Dominique Rocheteau, s'est évertué à préciser que rien n'était officiel et que ça pourrait se décanter ce soir ou demain. Mais une nouvelle fois, on peut se poser des questions sur cette attitude de Johan Mollo. En plus, il traîne son spleen sans vraiment cacher qu'il a besoin d'égayer sa vie. C'est quand même grave, on a l'impression qu'il est dépressif.
Ouais, je sais pas s'il est dépressif. Maintenant, si je crois qu'un joueur qui ne veut pas jouer pour un club, il n'y a pas besoin de le retenir. Après, ça devient du charbon, donc c'est très compliqué après à gérer dans un groupe. Je pense que si le joueur veut partir, il faut le laisser partir. Ça va dans le sens du joueur, ça va dans le sens du club aussi, je pense.
Et une fois encore, Johan Mollo, il a un tempérament à la fois lunatique et cette personnalité un petit peu égocentrique. Il aime bien faire son beau gosse sur les réseaux sociaux, et il aime bien se mettre en avant, une fois encore, là, dans cette manière de communiquer, en prenant de court tous ses dirigeants. Il n'est pas un peu égoïste dans cette façon de parler ?
Bah, c'est sûr que de parler sur un réseau public, c'est pas la meilleure des manières. Il faut être clair avec les gens. Je pense qu'en plus il a sûrement un agent, donc parler comme ça librement sur un réseau public tant que personne soit au courant, c'est très délicat.
Est-ce vraiment son intérêt d'aller se perdre comme ça à l'est de la Russie, au sud-est de la Russie, non loin de la frontière kazakh, en plus dans une contrée où bon, fait pas forcément bon vivre, je pense, non plus, parce que bon, il a fait le choix d'accepter cette seule offre qui, selon ses termes, se présentait à lui, mais il aurait pu la refuser.
Oui, c'est clair. C'est clair que c'est pas un endroit, on va dire, rêvé. Je pense qu'en plus, c'est pas sûr qu'ils se mettent en valeur, enfin pas en valeur, mais en lumière, dans un club aussi loin et qui est peu développé, je pense. Le refuser, je sais pas. Après, il y a peut-être sûrement d'autres conditions qui ont fait qu'il a accepté.
Alors, Johan Molo, il a, on va dire, relativement déçu à l'AS Saint-Etienne lors de son passage. Hein. 59 matchs joués en Ligue 1, seulement 9 buts marqués. Il a rarement été décisif. Il a été bon lors des 6 derniers mois de la saison dernière. Il a été bon également lors des 6 derniers mois qui ont mené à l'épopée jusqu'en finale de la Coupe de la Ligue en 2013. Mais sinon, Johan Molo à l'AS Saint-Etienne, il n'a pas vraiment marqué les esprits.
Ouais, bah après, s'il est bon 6 mois, il faut voir si c'est intéressant ou pas, mais c'est vrai qu'un joueur, il doit être plus constant, surtout à son âge. Donc, je crois que c'est une période charnière pour lui d'être inconstant. Peut-être que lui, il a besoin aussi d'être justement plus régulier. Donc, c'est peut-être ça qui fait que qu'il s'en va de Saint-Etienne.
En plus, il n'a jamais réalisé de saison pleine, hormis à Caen en 2010-2011, où il n'avait joué quand même 34 matchs. À 26 ans, Johan Molo est-il définitivement arrangé dans cette fameuse catégorie des éternels espoirs du foot français?
Je ne sais pas si on peut dire ça. Je ne sais pas si on peut dire ça. Après, son choix de carrière, il va dans ce sens-là, c'est dommage. C'est vrai qu'à 26 ans, je crois que c'est un tournant dans une carrière. Partir en Russie, parce que c'est le bon choix dans un club qui n'est pas plus connu que ça. Faut voir.
On continue de parler mercato. Valentin Esrik ferait partie des petits papiers de Christophe Galtier pour pallier le départ de Johan Molo, justement. Le milieu offensif de l'OGC Nice ne s'entend plus avec Claude Puel, selon Canal+. Et toujours selon nos confrères de la chaîne cryptée, le président niçois Jean-Pierre River a confirmé le départ de Valentin Esrik pour la SS après le match face à 3. L'OGC Nice et 3 s'étaient séparés sur un match nul 3 buts partout. Le club, la SS, était pourtant en concurrence avec Guingamp sur le dossier. Alors, on va se fier à ce qu'ont révélé nos confrères de Canal+, ce week-end. Esrik à la SS, est-ce que c'est une bonne idée?
Une bonne idée, je sais pas. Après, on parle de Molo qui s'en va d'une façon précipitée de Saint-Etienne. Lui, je pense qu'il est un peu dans le même profil avec l'OGC Nice. C'est un joueur de talent, a priori. Après, est-ce qu'il fera l'affaire en remplaçant Molo, à voir dans les prochains matchs?
Il est capable de créer du jeu. Il a joué 80 matchs en Ligue 1, 10 buts avec l'OGC Nice. En signant à la SS, est-ce qu'il a l'occasion d'être encore plus décisif, parce qu'il sera quand même bien entouré?
Ouais, c'est sûr qu'il sera bien entouré. Maintenant, je pense que s'il recrute un joueur pour ne pas le faire jouer, c'est pas possible. Je pense que c'est plus... maintenant, il faut... C'est dans l'esprit de le lancer, de le développer. Donc, à mon avis, c'est à lui de prendre sa chance.
Alors, selon les dernières rumeurs mercato, Esrik était en balance avec l'ancien milieu de l'Olympique de Marseille et de Sedan, Morgan Amalfitano, mais l'ancien monégasque aurait la préférence de Christophe Galtier, donc s'orienterait vers la SS. C'est lui, ce fameux numéro 10 tant attendu, Valentin Esrik, 23 ans.
Peut-être, c'est l'avenir qui nous dira. Hein.
Baebek, Esrik, Mopet également, 18 ans, qui est également arrivé de Nice, recrute relativement jeune cette saison. Pourquoi la SS s'oriente-t-elle vers des éléments aussi peu expérimentés? Parce que Baebek et Esrik comptent à peine plus de 160 matchs en Ligue 1 à E2, et Mopet, c'est pas non plus c'est pas non plus le Maldini de la Ligue 1, quoi.
Recruter jeune maintenant, c'est pour préparer les saisons futures, hein, toujours. Ça veut dire que c'est peut-être un projet à Saint-Etienne qui va se développer sur plusieurs années. Se permettre d'être entouré par des joueurs plus anciens et après de se développer. Je crois que dans toute équipe, il y a un recrutement, soit un recrutement qui se fait pour entourer les jeunes, soit un recrutement qui va te permettre de se rapporter au groupe.
Valentin Esrik, on peut quand même se rappeler que ce joueur a posé quelques soucis à l'AS Saint-Étienne il y a quelques années, puisque c'est l'homme qui avait violemment taclé Jérémy Clément en février 2013, à quelques mois de la finale de la Coupe de la Ligue. L'ancien Lyonnais avait d'ailleurs contracté une fracture tibia-péronée ce soir-là, et l'ASS avait quand même réussi à s'imposer 4-0 face au Gym à Geoffroy Guichard. Sur le plan de l'humain, n'est-ce pas un risque que de recruter un élément dont beaucoup de monde à Saint-Étienne risque finalement de conserver une image un peu ternie à cause de ce tacle qui n'était pas maîtrisé?
Si on reste sur des a priori comme ça, c'est sûr que c'est compliqué. Maintenant, après, c'est à lui de prouver tout de suite sur le terrain que c'est pas ce type de joueur. Après, je crois que c'est pas sur une action qu'on peut définir un joueur. Forcément, ça marque chez certains supporters. Après, je pense que les joueurs, ils passent complètement au-dessus de ça. Ils sont professionnels, donc ils doivent faire avec. La radio est pour
ensemble. Il est 20h45 tout juste sur RVR, on va faire une petite pause musicale. Thibaut Tissier a en musique aujourd'hui la meilleure ambassadrice de la pointe bretonne, se nomme sans aucun doute Nolwenn Leroy. Après le succès fulgurant de son album de reprise de standards régionaux, elle a créé un nouveau style, la pop celtique. Illustration avec le premier extrait de son album Aux filles de l'eau, juste pour me souvenir. On l'écoute tout de suite sur RVR 101.4 à Tarare, 93.6 à Tizi, 104.6 à Vougy.
Quand on souffle sur les braises, voilà que le vent rôde, tourne contre la falaise, que la marée taraude. Ce ne sont pas des larmes, ni même de la rosée, que mon visage réclame. Juste un peu de buée, un peu d'eau et de sel, juste pour me souvenir que derrière les nuages du ciel se cache ton sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit. Chantera toute la nuit. Je marche sur la grève où les bateaux s'échouent, mais jamais la marée ne ramène nos hommes jusqu'à nous. Le vieux phare allumé, tranchant comme une lame, me rappelle que Cinca avait laissé chez lui sa femme qui marchait dans le sel, juste pour se souvenir que derrière les vagues du ciel se cachait son sourire. Juste un peu d'eau sur les lèvres, juste pour me souvenir de ce dernier baiser amer, juste avant de t'enfuir. Dis-moi juste que tu es ici, sous l'océan enfoui, dans les bras d'une sirène qui te chantera toute la nuit, te chantera toute la nuit.
Nolwenn Leroy, juste pour me souvenir sur RVR, il est 20h48. On part à Lorient. La radio est pour ensemble. RVR. Thibaut Tissier, vous êtes toujours là?
Oui, toujours.
Dimanche à 17h, les Stéphanois se rendent au Moustoir à Lorient où ils retrouveront les Merlus, 12e de Ligue 1. Sur les dernières confrontations, la SS a réussi enfin à casser la spirale infernale en Bretagne. Avant, les Merlus de Christian Gourcuff étaient un peu la bête noire de l'AS Saint-Etienne. La tendance s'est un petit peu inversée. L'année dernière, les Verts s'étaient imposés au stade du Moustoir 1-0 grâce à Fabien Lemoine, le métronome du milieu de terrain. Peuvent-ils refaire le coup de l'an dernier ?
Ouais, je pense que sur un début de saison, il y a toujours moyen d'aller faire un coup là-bas. Maintenant, Lorient, c'est toujours une équipe qui a peu de moyens, mais qui fait de très belles choses en championnat. Donc jamais facile à jouer.
Un joueur dans ce match peut faire des étincelles, Majid Waris. Après un été mouvementé où Rennes et Lorient se disputaient ce joueur, au départ c'était Rennes qui devait l'avoir, puis finalement Lorient est arrivé et a finalement emporté la mise. Le Ghanéen a finalement donc bien signé à Lorient aux dépens du Stade Rennais. Hier, il a empoisonné les défenseurs bastiais, mais il a manqué de réussite dans la finition à l'image de cette reprise de la tête qui est passée vraiment juste à côté alors qu'il était tout seul. Il a été surpris de se retrouver tout seul manifestement. Dimanche, sera-t-il Majid Waris l'ennemi public numéro 1 des Verts qui ne sont pas rassurants défensivement?
Ça je ne sais pas. Ça sera sûrement un élément important. Après, si c'est pas un joueur qui fait une équipe. Donc faut se méfier de certainement plusieurs éléments importants.
Cet ancien joueur de Valenciennes possède un CV intéressant quand même en Ligue 1 puisqu'il avait inscrit 9 buts en une quinzaine de matchs avec le VAFC, avec Valenciennes. Après le départ de Jordan Ayew vers la Premier League, vers l'Angleterre, est-ce que Waris est le nouvel homme fort du FC Lorient?
Bon, en tout cas, il a été recruté pour. Donc forcément, il est attendu du côté de Lorient. Maintenant, c'est sur les prochains matchs qu'on verra s'il tient son rang.
Et Sylvain Ripoll, qui a remplacé Christian Gourcuff, déjà l'année dernière, il était là. A-t-il déniché la perle rare avec ce joueur? Il est ghanéen comme son prédécesseur et il connaît bien la Ligue 1 puisqu'il a joué avec Valenciennes, il était plutôt bon.
Ouais, après, il a fait un court passage, donc c'est toujours difficile. Dans quel état de forme il est aussi, il faut voir. Faut voir, maintenant c'est un nouveau club, c'est pas les mêmes attentes, c'est pas le même rôle, donc c'est à lui de développer son jeu.
Alors, outre Waris, il y a quand même d'autres joueurs de talent qui peuvent poser des problèmes à l'AS Saint-Etienne. Vous parliez de la notion d'équipe il y a quelques secondes. On parle notamment, il y a un joueur qui revient quand même avec insistance quand on évoque Lorient, c'est Philippe Otto, la révélation de l'année dernière, qui, déjà contre Saint-Etienne, avait fait de bonnes choses. Il n'est pas très très connu encore, c'est un milieu offensif qui possède un peu la même verve, le même dynamisme qu'un certain Franck Ribéry à ses grandes heures. Et puis il y a Maxime Barthelmé qui cause régulièrement des problèmes aux Stéphanois quand, dans les confrontations directes. Comment la SS peut-elle réussir à se sortir de ce piège et museler ces joueurs qui à tout moment peuvent détonner?
Ça, bah, après, est-ce qu'il faut faire attention à l'adversaire ou est-ce qu'il déjà travaillé sur la SS? Ça c'est une autre question. Je crois que parce que c'est vrai que Saint-Etienne, il me semble qu'il manque de rigueur sur tout un match.
Oui.
Ils font des moitiés de match corrects, des moitiés de match plutôt mauvaises. Donc après, je pense que c'est plus des ajustements sur leur équipe qui peut être déterminant sur l'adversaire. Après, c'est des détails.
Maintenant, on va passer à la Coupe d'Europe, puisque jeudi, il y a le rendez-vous que tout le monde attend, le barrage aller. Mille Samiorey, ASS. La radio est pour ensemble. Deux ans après le tour préliminaire victorieux, 3-0, 4-0, les Verts s'apprêtent à retrouver les Moldaves du Milsami Orhei. Comment gérer ce match face à une équipe qui connaît bien la SS? Parce que ça ne va pas être facile pour les Verts de Christophe Galtier.
Ouais, je sais pas, après la Coupe d'Europe, pour l'instant ça ne nous réussit pas. Maintenant il faut passer au-delà de ça. Et il faudra mettre, surtout régler justement, comme je disais tout à l'heure, les ajustements qui... Aujourd'hui, la SSE n'est pas en bonne forme. il faudra régler sur tous ces détails pour maîtriser ce match-là.
Les insuffisances techniques et tactiques entrevues lors du tour précédent, notamment au retour, surtout au retour contre le Târgu Mureș, les Roumains, sont-elles inquiétantes? Parce qu'on a vu une AS Saint-Etienne totalement se liquéfier face à des Roumains qui n'avaient plus rien à perdre et qui ont tout fait pour aller chercher au moins une prolongation.
Ouais, c'est toujours ça. Après, ils les jouent tôt dans la saison, donc ça veut rien dire. Après, je pense que les petites équipes, entre guillemets, qui n'ont jamais rien à perdre, elles font tout pour essayer d'accrocher un résultat. Après, c'était tellement tôt dans la saison que là, il faut... Je pense qu'il faudra. Ça peut servir de point d'ancrage pour la suite. Hein.
Le Milsami est une formation au profil assez identitaire, puisqu'un seul joueur européen évolue dans l'effectif de ce club. Il est nigérian, il est défenseur. La plupart des autres joueurs qui composent l'effectif est roumaine. Est-ce que ça peut avoir une influence, cette identité?
Non, je crois pas. Je crois que. Enfin, ça veut rien dire. Je vois pas. Je vois pas pourquoi ça pourrait avoir une identité. Je pense qu'ils savent jouer au basket, ils doivent avoir un fond de jeu qui doit être cohérent. Après, c'est pas une équipe de top niveau. Je pense que la SSE, ils doivent être capables de gagner un match comme ça, là, comme celui-là.
Et en plus, il y a certains joueurs qui étaient là il y a deux ans. Il y a plus Franck Tabanou qui est parti à Swansea, mais il y a quand même, on va dire, une colonne vertébrale. Il y a des Loboine, il y a des François Clair, il y a des Stéphane Ruffier, évidemment, Moustapha Bayalsal, pour ne citer que. Donc, il y a des joueurs qui ont connu cette double confrontation victorieuse. Là, le faux pas est interdit, quoi.
Ah bah oui, puis c'est surtout des joueurs qui sont des cadres aujourd'hui, qui ont vécu une saison... Une très bonne saison à Saint-Etienne, donc il y a, on va dire, un standing à tenir.
La qualification en poule est indispensable pour la bonne continuation de la SS dans sa progression.
Ouais, ça me semble être une suite logique par rapport aux années précédentes. Maintenant, c'est de jouer une Coupe d'Europe et de gagner des matchs, de faire une bonne figure dans ce championnat.
Est-ce que Galtier doit continuer à évoluer en 4-3-3 avec 3 milieux et 3 attaquants, parce qu'on a vu, mine de rien, contre Bordeaux, qui avait quand même un peu de mieux, même si, on l'a dit en début d'émission, c'était pas forcément l'extase.
Moi, j'aimerais pas qu'on me demande de savoir si on veut changer mon principe de jeu ou pas. Je pense qu'il sait ce qu'il veut faire. Il a confiance dans ce qu'il veut faire. Après, s'il doit changer son système de jeu, c'est que il se remettra en question tout seul. Aujourd'hui, je pense qu'il a confiance en son système de jeu, il faut qu'il continue là-dedans.
Et aux yeux de certains, le duo de la charnière centrale, Sal-Pogba, n'a guère convaincu contre Bordeaux. Est-ce que Christophe Galtier aurait bon goût de replacer, par exemple, Kevin Théophile Catherine dans l'axe pour, par exemple, ménager Moustapha Bayalsal, ce qui permettrait à François Clair aussi d'avoir du temps de jeu?
Ouais, après, ça dépend, ça peut permettre également de les relancer. Hein. C'est la psychologie. Il faut connaître, je pense qu'il connaît mieux les joueurs que n'importe qui, donc après, c'est lui qui va savoir comment il va replacer ses joueurs. Ouais.
C'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup Thibaut Tissier d'avoir répondu à notre invitation. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec le jazz dans In the Mood for Jazz sur RVR. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour une nouvelle mi-temps verte. En attendant, on se retrouve demain dès 7h, les amis, pour se réveiller en musique sur RVR, l'antenne de la radio qui vous ressemble. Salut à tout le peuple vert. Ciao. Salut Thibaut. Salut à tout le peuple vert! La mi-temps verte n'a pas eu d'offre au Mercato. Tous les lundis à 20h, je vous retrouve pour débriefer toute l'actualité de l'AS Saint-Etienne. Ligue 1, Europa League, Coupe Nationale, Mercato, polémique, il y en aura pour tous les goûts. La mi-temps verte, c'est le seul talk show 100% ASS qui exclut totalement la langue de bois. Et c'est tous les lundis à 20h sur RVR.
Johnny Rep enfile son maillot vert.